Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Alors que nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus et le confinement qui en découle, je vous propose d'échanger avec des invités de Génération Do It Yourself passés et à venir afin de comprendre comment ils gèrent la crise de chez eux et d'augmenter ainsi notre moyenne en temps de crise. Et voilà, donc je crois que c'est showtime, comme me dit mon logiciel StreamYard. Salut Clément, comment vas-tu ?
Salut Mathieu, ça va très bien et toi ?
Bah écoute, très bien, très bien. J'espère qu'on était en train d'essayer de régler tous ces petits problèmes de connexion à distance, vive le post-confinement. Mais voilà, on va laisser tout le monde de toute façon arriver. On va prier pour que la connexion soit bonne. Nous, on a fait un épisode il y a quelques temps. Hein, tu étais venu sur Génération Do It Yourself, mais tout début du podcast.
Quelques années déjà.
Hein. Ouais, ça doit faire 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc voilà, depuis, il s'est passé bien des choses dans nos vies respectives, mais dans la tienne, dans ta vie d'entrepreneur en particulier. Donc notamment, je crois que moi, je te voyais à l'époque pour ce qui était bureau à partager, qui est en partie devenu donc morning coworking, qui est le gros de votre activité désormais. Alors, quand on cherche un peu sur morning coworking, on vous compare forcément beaucoup au très grand WeWork. J'espère plus international, c'est ce que je veux dire. J'espère qu'on vous compare pas trop à WeWork parce qu'en ce moment,
c'est compliqué comme comparaison. C'est effectivement très compliqué. On n'a pas la même histoire, en tout cas. Ça, c'est certain.
Pardon. Et donc, du coup, depuis qu'on s'est vu, il y a notamment une prise de participation majoritaire de Nexity, qui est un des très gros acteurs de l'immobilier en France et en Europe. Et donc, beaucoup de choses qui se sont passées. Et évidemment, alors, on va parler un peu de tout ça en attendant que tout le monde se connecte. Mais il y a une des choses que je voulais voir avec toi particulièrement, c'est plusieurs choses. Mais justement, en tant que gros acteur du bureau partagé, coworking, etc. Vous devez être sur le pont, j'imagine, depuis quelques semaines maintenant pour voir un peu, essayer de percevoir ce que sera le bureau dans les 12 prochains mois peut-être, les impacts.
Je ne cache pas qu'on a quelques conversations sur le sujet, pas mal avec Nexity d'ailleurs évidemment, mais avec plein de monde en interne, avec des journalistes. Avec des gens qui s'y intéressent, et il y a effectivement plein de c'est un sujet qui est au cœur de ce qu'on est en train de vivre. Comment on va bosser demain, et l'expérience qu'on est en train de vivre collectivement nous pousse à une réflexion sur ce que veut dire d'aller au bureau versus travailler chez soi ou dans un espace de coworking d'ailleurs. Donc on est très humble, hein. On est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Ça aura des conséquences. Aujourd'hui, savoir exactement quelles sont ces conséquences, c'est un petit peu tôt. Maintenant, il y a 2-3 trucs à suivre qui sont très intéressants, et notamment les conséquences de cette expérience de travailler à marche forcée à distance. Moi, j'appelle pas ça du télétravail, même si on appelle ça du télétravail. Pour vulgariser le sujet, j'appelle ça du confinement. Ça n'a rien à voir avec le télétravail dont on voit l'évolution depuis 25 ans tranquillement arriver dans le monde du travail à coup de petites incrémentations. Doucement, les gens se mettent à télétravailler. C'est des acquis sociaux quasiment depuis qui sont en train d'arriver dans les entreprises. Donc c'était une tendance très forte, mais là, bam, tout le monde est en confinement, pas en télétravail. Mais quand même, il y a un parallèle qui se fait, on est obligé de le faire, et c'est vrai que c'est le sujet qui va être le plus intéressant à suivre. Il y a déjà des conséquences très claires sur le marché du bureau, dont on peut parler, dont on va parler, notamment la réduction des espaces de travail, des mètres carrés dont les boîtes ont besoin. Moi, je suis en conversation quotidiennement avec des chefs d'entreprise qui sont impactés par la crise, qui me disent: évidemment, on va avoir moins de besoins en poste puisqu'on va avoir moins de people. Et puis le deuxième, c'est maintenant qu'on a goûté au travail en télétravail, on pense qu'on a besoin de 2 fois de moins de mètres carrés qu'avant.
Mais alors après, là-dessus, justement, une des questions forcément que je me pose, moi, alors tu le sais, hein, nous, c'était déjà le cas, tu étais venu dans nos bureaux. Moi, j'ai été client bureau à partager, puisqu'on partage aussi, on loue. Et donc même dans mon modèle économique, moi, je viens d'investir aussi dans un gros bureau à Bordeaux. Ça me je sais pas si c'est une bonne idée, mais ça me travaille fortement. Et évidemment, tu te dis à la fois, peut-être qu'il y aura besoin de... Alors peut-être que tes clients et tes partenaires te parlent du fait qu'ils ont besoin de deux fois moins d'espace parce que les gens travailleront deux fois plus à distance. Mais il est possible, voire probable, au moins dans une période courte, mais qui pourrait durer un peu derrière aussi, que tu doives donner deux fois plus d'espace, voire plus à chaque employé dans tes bureaux. Donc tu vois ce que je veux dire. Si un endroit où tu pouvais mettre 50 personnes, si maintenant tu peux en mettre que 25, ben de toute façon, même si y en a plus que 25, tu restes à peu près à périmètre ISO sur tout ça. Là, tu crois pas que ça va compenser?
Ouais, donc là tu parles des mesures sanitaires et du besoin de distanciation sociale. Donc les préconisations, c'est 4 mètres carrés par personne.
Ouais.
Ce qui permet en gros d'être à 1 mètre dans un bureau fermé. Ça tombe bien, c'est à peu près toute chose près ce qu'on a nous dans nos bureaux fermés, 4 mètres carrés par personne. Alors là tu parles de mesures sanitaires qui pour moi sont exceptionnelles. Après il peut y avoir un débat sur à quel point les mesures sanitaires qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui vont être pérennes dans le temps. Moi, mon sentiment, c'est que dès qu'on a dépassé la crise, on va se refaire la bise, on va se resserrer la main, on va pas éternellement porter des masques et pas pouvoir s'embrasser, quoi. Donc, je mettrais de côté, il risque d'y avoir, je pense, des mesures, des niveaux d'alerte avec, je sais pas, niveau 1, tu mets ton masque, niveau 2, tu télétravailles, niveau 3, t'es confiné, quoi. Et donc un peu comme les pics de pollution à Paris où t'as des alternances sur les plaques d'immatriculation et tu peux voilà t'as la moitié des gens qui circulent, bah il y aura sûrement un système comme ça pour la prochaine fois où ça arrive. Mais moi je ne vois pas les mesures sanitaires, je les vois pas rester et perdurer dans le moyen long terme. Je les vois de façon très épisodique pour les 3, 4, 6 prochains mois grand maximum. Voilà. Donc on va revenir après à un bureau entre guillemets normal. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Donc je pense pas que ces mètres carrés là dont tu parles, qui sont des mètres carrés de sanitaires, et même aujourd'hui, on peut arriver à très bien mettre en application ce qu'on nous dit en termes de mesures sanitaires dans les espaces actuels.
D'accord. Donc, ça vous y arrivez aujourd'hui?
Ouais. Ouais. Alors, on a chez Morning fait un énorme travail depuis 3 semaines pour pouvoir réaccueillir nos clients depuis hier, même si les espaces sont restés accessibles pendant toute la durée du confinement. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas télétravailler, donc on a laissé les espaces accessibles pour qu'ils puissent venir. Si t'as 2 gosses et que t'habites dans 60 mètres carrés à Paris, enfin c'est pas possible d'être confiné et de télétravailler. Quoi. Donc ces gens-là, ils venaient au bureau. On avait à peu près 4-5% des gens qui venaient. Et là, hier, on a observé peut-être 10% grand max des gens qui sont revenus.
D'accord.
Donc, c'est très, très faible.
Au total, 15%?
Au total.
Ouais, d'accord.
Et encore, 10%, je pense que c'est optimiste. Donc, les gens viennent progressivement. En plus,
Combien de postes vous avez?
On a à peu près 6000 positions.
Donc, d'accord.
Voilà, c'était vide, hein, on va pas se mentir. Et la plupart des boîtes chez nous, c'est des boîtes de services. Des petites TPE, PME, pour la plupart, c'est la moyenne, c'est 10 personnes. Donc, c'est des boîtes qui savent s'organiser à distance.
Ouais.
Donc il y a massif, le travail à distance, le télétravail reste massif chez nous, quoi.
Et le contrat type, c'est quoi chez vous? C'est quelle typologie d'engagement? C'est-à-dire, tu peux te partir quand tu veux?
Deux mois de prévu. Je pense qu'on est dans les plus flexibles. C'est pas trop notre style d'engager les gens sur du long terme. Je sais que nos concurrents aiment bien faire des engagements longs contre des réductions. Nous, en général, c'est 1 an max l'engagement. Voilà, et puis c'est 2 mois de préavis pour la plupart des boîtes. Donc, évidemment, là, ce qui se passe, hein, ce qui se passe pour nos clients, pour toutes les petites boîtes qui souffrent. Il y en a évidemment qui ont posé leur préavis et il y en a beaucoup quand même, hein, puisque bah, elles souffrent, elles se disent la charge bureau, on l'enlève tout de suite, et puis on bosse de la maison, on se débrouillera. cas, on sauve ce qu'on peut sauver. Donc ça, c'est un réflexe, évidemment, d'une petite boîte qui va pas très bien, et je la comprends, et moi, je les encourage à faire attention. Et puis, ils reviendront quand ils pourront revenir.
J'ai une petite coupure, on l'avait prévu non, mais on l'avait...
Ça va, je suis revenu.
Aperçu tout à l'heure. Alors, je commence à avoir quelques premières questions qui reviennent. On a prévu un contingency plan avec Clément qui doit se remettre près du Wi-Fi. Ah, on repart. Donc
c'est bon.
Tu dis, je t'ai récupéré. Tu me disais ouais donc les petites boîtes.
Les petites boîtes, donc ça représente une dizaine de pourcents chez nous qui partent. Et après, ce qui se passe comme phénomène, ce qui est très intéressant, c'est surtout des boîtes qui réduisent la voilure. J'avais 25 postes, j'en enlève 10. Et j'organise pour tourner sur ces 15 postes qui me restent. Il y a évidemment peut-être 5 personnes qui vont partir dans mon équipe parce que ça va mal, et puis on sera 20 à tourner sur 15 postes. Ouais. Donc on organise en fait on va dire la flexibilité au sein de nos bureaux. On est maintenant en train de développer un outil qui va permettre de réserver ces positions pour les boîtes. Donc un petit outil très simple qui te permettra de dire je viens lundi, mercredi et vendredi après-midi, et le reste du temps, je suis pas là. Et ça te permet de voir combien de personnes dans le bureau, et donc savoir si tu es en overcapacity ou si ton nombre de postes correspond. Donc ça, c'est un outil qu'on va mettre à disposition de notre communauté, et même qu'on va laisser, qu'on va mettre à disposition de tout le monde. Donc ça, fait partie des choses qu'on est en train de développer.
D'accord, que je pourrais utiliser pour mon bureau si je veux.
Tout à fait.
Trop cool. Et... Si je prends alors déjà bon j'imagine que t'as quasiment en plus aucun t'as des gens qui résilient une partie ou toute ou partie de leur contrat mais t'as aucune personne qui rentre qui te dit je veux prendre des bureaux maintenant si
on a signé des contrats pendant la période de confinement pas beaucoup hein, je crois qu'on a signé 2 après on a des leads qui ont laissé tomber évidemment parce que ça allait mal qui ont repoussé puis il y a des leads qui vont revenir qui étaient en train de regarder voilà. C'est vrai que la période des 6 prochains mois va être très intéressante. Moi, mon analyse, c'est que évidemment, on est une variable d'ajustement très forte, et puis notre modèle permet aux boîtes d'ajuster leur taille d'espace à leur taille d'équipe. Et ça, c'est le principe même du coworking, cette flexibilité qu'on offre. Donc, heureusement,
à l'opposé du 3-6-9, quoi. Enfin,
à l'opposé du mur contraint qu'on ne peut pas bouger. Là, les boîtes peuvent rendre des espaces, en prendre plus. Enfin, voilà, là on est vraiment dans le propre même de la flexibilité qu'on offre alors que si t'étais dans tes murs coincé bah en fait t'es coincé quoi donc ça c'est le plus important et donc à court terme je pense qu'on va souffrir pas mal parce qu'effectivement les boîtes vont tout de suite s'ajuster à la baisse mais on va tout de suite être vu comme une solution de flexibilité dans la crise, dans l'incertitude le coworking, la flexibilité va être l'offre la plus intéressante. Donc, à court terme, on va souffrir, mais je pense que très vite, on va rebondir. Ça, c'est mon analyse. Après, c'est le rebond qui va déterminer notre résilience et notre capacité à être contracyclique et donc être un bon secteur. Faut se dire, et c'est pour ça que j'y crois, que le coworking, il a grandi après 2008. Il s'est développé, il a grandi après 2008. 2008, ça a vu l'éclosion de Airbnb, de Drivey, de Blablacar, tous ces projets qui quelque part partagent des ressources et permettent à des gens en économisant de l'argent. Donc c'est le partage de ressources, c'est une évidence que dans des périodes de difficulté, se mettre ensemble pour moins dépenser et gagner en flexibilité, voilà, ça fait partie des sujets intelligents.
C'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'allais te poser. Je te vois assez serein, en fait, zen, là. Mais je me dis... alors, peut-être que t'es passé par des montagnes russes, mais peut-être qu'une des raisons aussi, c'est que ça démontre une partie de ton modèle économique, c'est-à-dire cette approche de flexibilité. Peut-être que après avoir vécu tout ça, quand tu as une boîte qui grossit, tu réfléchis plutôt à deux fois avant de t'engager sur un bail 369 qui te coûte un bras, dans lequel tu as des investissements faramineux d'aménagement, de déménagement, etc., etc., et où te dis en fait, bon, finalement, quand je dois ajuster ce qu'on vend un peu depuis des années sur le bureau à partager et sur Morning Coworking et chez moi d'ailleurs hein, sur mes bureaux, mais c'est de dire en fait tu vas pas aller te prendre un bail, un truc trop engageant. Oui, peut-être que c'est un peu plus cher, mais tu payes pas le ménage, tu payes pas tout ça. T'es bien installé, tu poses tes fesses et voilà, il y a pas de. Donc, ça valide un petit peu ce modèle.
C'est simple. Ouais, c'est flexible, c'est simple et ça permet de s'ajuster quoi. Donc, c'est résilient quoi. Tout simplement.
Comme vous avez beaucoup réfléchi et beaucoup parlé avec vos amis de Nexity en interne et que c'est votre métier, est-ce que tu pourrais me partager, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête sur, depuis une semaine, nous on s'y est mis beaucoup plus tard, c'est pas notre métier, on fait pas que ça et on a d'autres choses, on réouvre. Alors non, on n'avait pas fermé, c'est pareil, les bureaux, on les a toujours laissés ouverts, il y a un accès Digicode, il y a tout ça, mais on prépare juridiquement, on a partagé ce qu'on demandait, les mesures de précaution, etc., etc. Est-ce que tu as des choses à me dire, des best practices, des bonnes idées, des choses que nos auditeurs pourraient utiliser pour se dire, dans mes bureaux, je devrais faire ça?
À court terme, il faut bien suivre les mesures du gouvernement. On a déjà parlé et nous, par exemple, il y a eu un débat sur le fait d'obliger de mettre le masque dans les espaces communs. Donc on a tranché en disant oui, on oblige les gens à porter le masque dans les espaces communs. C'était pas forcément une préconisation du gouvernement, mais on s'est dit il faut que les gens se sentent en sécurité voir que les autres portent le masque, c'est quasiment une mesure de sécurité, de confiance dans voilà. Donc bien suivre les règles de sécurité, continuer le télétravail le maximum pendant la période. Et après, si tu parles de comment réfléchir à ces bureaux de demain, ça va être un vrai travail. Quand tu discutes avec des entrepreneurs qui étaient plutôt réfractaires au télétravail avant, y en a beaucoup qui disent « j'ai compris, en fait, ça marche. Toute mon équipe est à distance, on a produit pendant 2 mois quasiment on n'avait jamais produit. Ça a fonctionné, les gens ont bossé. » Alors, ils appellent ça du télétravail, c'est une réalité éphémère, si, je le répète, c'est du confinement, c'est pas du télétravail. Mais en tout cas, l'expérience de productivité en travail à distance est plutôt positive, même s'il y a plein d'aspects négatifs, le confinement et évidemment la solitude et de Zoom burnout, tout le monde fait des réunions Zoom toute la journée et on n'en peut plus. Donc il y a plein d'aspects négatifs, mais l'aspect positif, c'est que les gens qui étaient plutôt contre le travail à distance se sont rendus compte que ça marche, c'est possible de travailler à distance, on est productif. Et donc il va y avoir, je pense, une grosse démarche des entreprises pour mettre ça en place de façon massive. Évidemment, ça va pas être tout à distance, mais il va y avoir un équilibrage entre peut-être avant le conseil c'était 1 à 2 jours, peut-être qu'on va monter même jusqu'à 2-3 jours maintenant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont qui s'y sont mis à marche forcée pendant le confinement et qui vont s'y mettre beaucoup plus, 1, voire 2, voire 3 jours après le confinement. Moi, mon analyse, c'est que ça va avoir des impacts très forts, évidemment, sur les mètres carrés, sur la demande, donc divisé par 2, peut-être c'est extrême, mais je pense qu'on va perdre en moyenne entre 20 et 30% de demande dans les mètres carrés sur les prochaines demandes. C'est une intuition, mais on va vite le voir. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est comment ça va impacter l'aménagement des espaces. Parce que le bureau va moins être un endroit où on va juste pour bosser, ça va être un endroit où on va pour faire plutôt de la collaboration, des réunions, des choses qu'on peut pas forcément faire ailleurs ou qu'on peut faire mieux au bureau qu'ailleurs. Donc ça va poser la question de qu'est-ce que les gens viennent faire au bureau. Et ça, chaque entreprise a une réponse un peu différente. Si une entreprise créative, c'est pas la même chose que si tu fais de l'IT ou si donc si tu vends des cosmétiques. Donc en fait, la question, ça va être à quoi ressemblent mes bureaux et à quoi je veux qu'ils servent dans cette nouvelle donne où les gens y vont plus pour d'autres raisons que pour travailler presque. Voilà. Donc ça va être très très intéressant à suivre. On bouscule complètement en fait le fonctionnement et le rapport que les gens vont avoir à l'espace et au bureau. Après on peut divaguer sur ce qui va se passer. Moi j'ai plein d'idées et j'ai des intuitions. Notamment je crois beaucoup au fait que demain l'entreprise va avoir un cœur qui représente beaucoup sa culture et qui va être un peu son poumon, son cœur, on va dire, et ça va être en multisite, c'est-à-dire qu'ils auront aussi beaucoup de bureaux éclatés, peut-être un peu partout à Paris, dans des gares, pour que les salariés puissent aussi bosser. Je crois pas du tout au télétravail à la maison, moi, par exemple. Je pense que ça a beaucoup de limites, le travail à la maison. Je pense qu'au bout d'un moment, on peut pas tourner en rond chez soi et qu'on a besoin d'un espace pour bosser qui soit professionnel.
Ce qui peut donner lieu à, finalement, que ce soit chez toi, chez moi, ailleurs, finalement, des gens qui vont prendre des postes à côté de chez eux dans un espace de coworking pour 3 jours par semaine ou je sais pas comment, si ça se fait à la carte, exactement, chez toi, j'imagine. Et puis, et se dire, bah ok, comme ça, je m'évite 1h30, 2 heures de transport 3 fois par semaine pour pouvoir bosser dans un endroit qui est un endroit propre au travail, bien fait, etc. Ça va clairement s'accélérer. Très probablement. Quand tu dis 20-30% de demande en moins, est-ce que tu crois qu'il y aura une corrélation du coup avec le prix de l'immobilier, évidemment, si tu as moins de demandes, est-ce que le prix va se casser la gueule, et est-ce que le prix des loyers va suivre aussi dans le locatif, en tout cas, on a l'impression que c'est moins rapide sur dans l'immobilier de logement, quoi. Généralement, le prix d'achat et de vente bouge très vite, plus vite que le prix de location. Est-ce que c'est pareil dans l'immobilier de bureau?
Alors, pour le coup, je suis pas un expert sur le marché, la macroéconomie du bureau. Il y a vraiment des gens qui savent mieux faire. Enfin, bon, de base, effectivement, s'il y a moins de demandes en mètre carré, il risque quand même d'avoir une baisse des prix. Le fait est que si on prend Paris avait tellement de demandes, donc même si tu baisses la demande de 20%, elle reste énorme. Donc je pense que ce qui risque de souffrir beaucoup dans le marché du bureau, c'est les zones qui étaient déjà difficiles à remplir. Oui. Donc là, ça va vraiment souffrir. Les gens vont privilégier toujours Paris. Donc si je peux avoir un bureau central, bah autant qu'il soit à Paris. Si je veux avoir un poumon et un seul, autant qu'il soit à Paris pour qu'il soit atteignable le plus possible par mes salariés. Donc je pense que Paris va être assez résilient. Maintenant, la défense, à mon avis, va souffrir typiquement. Des zones qui sont un peu plus périphériques. Donc oui, ça va baisser. On va pas se mentir. Je pense que ça va baisser. Tout va prendre au moins 10, 15, 20%. Après, je suis incapable de dire sur le logement. Le logement aussi, tout le monde dit que ça va baisser. Tout le monde s'attend à une remontée des taux aussi. Les taux dans l'immobilier, ça a un impact très fort. Même s'il y a une stabilisation des taux qui a été annoncée, on se demande comment c'est possible qu'à moyen terme, les taux ne remontent pas alors qu'il y a une dette énorme qui est en train d'être accumulée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand même bizarre. On se demande d'où vient tout cet argent, quoi. Et il va forcément coûter un peu plus cher. C'est pas possible.
C'est l'hélicoptère money, comme dirait notre ami Marc Fiorentino. Ça me fait rebondir du coup sur ta remarque sur la défense. Ce qui est intéressant, c'est que on peut finalement penser que les zones qui sont des zones de croisement, les intersections, les nœuds, comme on les appelle aussi, de transport en commun, etc., sont potentiellement intéressants. Les destinations finales seront plutôt plus difficiles si elles ne sont pas à côté d'une zone d'habitation. La question de Marc Michaud était pourquoi ne pas gérer les espaces des grandes entreprises qui vont être plombées. Donc, en gros, justement, le problème, c'est que souvent, celles-ci sont potentiellement plus... Pas toutes, hein, évidemment, il y en a qui sont dans le centre de Paris, si je pense à Paris et ailleurs, mais souvent, elles sont plus aussi dans des grosses périphéries. C'est des choses que vous faites, ça, de gérer des...
Ouais. De plus en plus, on est approché par des grands groupes et on a des conversations avec des grands groupes sur comment optimiser leur parc immobilier, leurs espaces, comment prendre à bail à leur place pour leur offrir derrière tout un service dont la flexibilité. Je te donne un exemple. Demain, une boîte prend 10 000 m2, on s'installe avec eux, on opère 3 000 m2 en coworking, et au fur et à mesure, si elles ont besoin, elles récupèrent de l'espace, ou le contraire, si ça se passe mal, on continue à louer plus d'espace. Ça permet en fait, au sein d'un siège, d'avoir de la flexibilité. Par exemple, c'est ce qu'on va faire avec Nestlé, On va s'installer chez Nestlé en face de la Côte Boulevard dans le 15e, dans leur nouveau siège qui fait 45 000 mètres carrés. Et on va prendre un plateau de 5 000 mètres carrés pour l'instant et pour créer Morning Ballard, donc un espace de coworking au sein d'un grand groupe comme Nestlé. Donc ça, c'est assez assez innovant, assez intéressant comme phénomène. Et en fait, je pense qu'on est au début de cette réflexion de comment on crée des poches de flexibilité au sein des ensembles immobiliers, comment on apporte une nouvelle dynamique à ces gros sièges. Voilà, ça fait partie des gros sujets qu'on regarde en ce moment qui pourraient être une zone de développement pour nous très intéressante.
C'est hyper intéressant. Donc, tu deviens aussi une solution de flexibilité pour finalement des gens qui ont des baux de l'autre côté. Donc, c'est intéressant. C'est pas que pour les gens qui veulent en prendre, quoi.
Et puis, je te tire le fil, mais ces boîtes-là, bah, je sais pas, Nestlé, par exemple, qui se retrouve à la Côte Boulevard, les salariés de Nestlé, ils vont sûrement avoir des besoins de télétravail. Donc, on pourra utiliser notre réseau.
Ceux qui habitent à Saint-Denis, ils pourront rester, si tu en as à Saint-Denis ou ailleurs, à côté de chez eux, pour utiliser une partie. Oui, exactement. Hyper intéressant. Dans les autres questions, alors il y a quelques questions autour du management. Là, on peut peut-être avoir une approche d'entrepreneur. Je ne sais pas si tu es toujours spécialiste là-dessus, mais même ton intuition sur Alexandre Renoux qui nous pose la question, est-ce que le travail à distance, car il n'y a pas que le home office, est compatible avec le management à la française?
C'est une bonne question. Alors, je pense que c'est un gros travail qui est en cours. Le fait est que depuis 20 ans, si on est en retard sur le télétravail, c'est effectivement que les managers à la française, ils aiment bien avoir leur brebis devant chez eux, au bureau, pour pouvoir les surveiller. Donc, il y a une certaine défiance des salariés d'une façon générale. Et donc le management vit plutôt le télétravail comme ils vont pouvoir glander à la maison tranquille si je les surveille pas, quoi. Il y a toujours un peu ce rapport management patronat contre salarié qui veut prendre son jour de télétravail le vendredi surtout pour pouvoir partir en week-end. Ça c'est un peu l'image, la mauvaise image du télétravail qu'on a depuis 20 ans. Maintenant, je pense que ce qui s'est passé là dernièrement, et on en a parlé tout à l'heure, c'est en train de changer la donne. Et aujourd'hui, avec les outils qui sont mis en place, mais il y a un gros travail à faire sur la gestion des outils, la gestion du télétravail, le travail à distance pour que les équipes soient performantes. Là, je suis complètement d'accord. Là, tout d'un coup, on a dit, bon, bah, tout le monde se met à distance, mais il n'y a eu aucune formation, il n'y a eu aucun travail sur la façon. Donc, quand je te dis, il y a du Zoom burnout, c'est vrai. C'est-à-dire que dans beaucoup de grands groupes, ils ont mis la réunionite qu'ils faisaient avant sur Zoom. Et du coup, c'est à coup de Zoom toutes les heures. J'ai fait Zoom à par-ci, Zoom par-là. Et en fait, ils ont recréé la même chose qu'ils avaient en physique en distance, et ça va pas.
Parce on va que appeler ça la Zoomite. La Zoomite.
La Zoomite, ouais, la Zoomite. Voilà. La Zumba. Et donc, je pense que ça c'est. Et on est au début de. Il faut réapprendre à travailler à distance. Travailler à distance, c'est beaucoup plus d'asynchrone, par exemple. C'est avoir un outil comme Trello, comme Asana, qui te permet de gérer des projets de façon asynchrone. C'est beaucoup plus être dans l'écrit. Ce qui est pas évident pour beaucoup de gens qui sont beaucoup moins dans l'écrit, plus dans l'oral. Donc voilà, c'est aussi une question. Là, les Français sont très heureux. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à travailler.
L'asynchrone, c'est pas toujours évident parce que ça veut dire que tu dois accepter que des gens soient pas disponibles maintenant, que en fait t'es plus sur une approche de tâches effectuées, de boulot livré, quoi, delivered,
faire confiance.
Faire confiance et de ce qui a été effectué plus versus le temps passé, quoi. Et c'est vrai qu'on a peut-être moins cette perception en France. Et à la fois, on est souvent quand même un pays qui est très perçu avec les lois assez contraignantes sur les heures de travail, comme un pays assez efficace et efficient. Donc, c'est tout le paradoxe là-dessus et c'est vrai que il y a des moments en tant que patron c'est difficile.
Ça va être très intéressant de voir cette évolution parce que aujourd'hui avec les technologies qu'on a, quand tu mets en place un bon Salesforce, un Asana, etc., etc., en fait, t'as un contrôle sur la production qui est encore plus précis. Sur les tâches effectuées, sur le temps que ça a pris, par les équipes de façon individuelle. Donc au final, les outils technologiques sont encore plus contraignants quasiment, plus contrôlants que le présentiel. Donc ça, je pense que ça va vite basculer, ils vont vite comprendre ça. L'entreprise, qui est quand même une machine à productivité, va vite comprendre ça et va être capable de mettre en place cette nouvelle façon, cette nouvelle dynamique de travail, en étant rassuré parce que justement les outils vont permettre de contrôler que tu fais ton travail, que c'est delivered, que le temps que tu as passé il est bon, etc. etc., etc. Donc au final, voilà, c'est un trade-off. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'autonomie du fait que justement le travail à distance, les gens vont pouvoir de plus en plus. Moi, je pense que le travail, c'est un passage. Le télétravail, c'est un passage. Le travail demain, c'est tu décides où tu travailles en fait. C'est pas du télétravail. C'est tu vas au bureau si t'as envie d'aller au bureau, tu vas chez toi, tu vas dans un coworking, tu vas faire du sport et en même temps tu bosses sur ton mobile. Demain en fait, je pense que les gens vont être en capacité de choisir leur espace physique en fonction de leurs besoins. C'est ce qu'on appelle le activity-based working. Donc, il n'y aura pas de télétravail. Il y aura, je vais là où j'ai besoin d'aller pour le boulot que j'ai à faire. Tu vois.
Mais c'est vrai que ça nous mène à des quand même des situations assez ubuesques. Moi, je me retrouve à faire des calls à 7h15 du matin, à faire des calls avec mes gosses qui sont là. Je suis encore surpris que j'en ai encore eu aucun qui a débarqué dans un LinkedIn Live, mais ça ne saurait tarder. Généralement, quand je dis ça, ça arrive dans les 4 secondes.
Ça, c'est le confinement.
Sur le confinement, oui, mais je veux dire même dans le home office. Alors du coup, après, là, je parle home en effet, mais il y a en tout cas des choses qui ont un peu changé à marche forcée, quoi, qui font que on tolère des choses un peu différentes. Comme tu le dis là, le sport, en fait, finalement, est-ce que tu peux considérer que quelqu'un, je sais pas moi, puisse travailler en faisant un jog et un call en même temps?
Tous les matins, depuis 2 mois en confinement, j'ai la chance d'être à la campagne. C'est pas la déco de chez moi derrière, pour assurer.
J'ai pas osé faire de remarque.
Tu peux. Je suis dans une maison de campagne avec un petite forêt en face, donc j'ai vraiment de la chance. Je mets mon short et mes pompes de tennis. Je prends mon téléphone et mes AirPods. Je vais faire mes calls dans la forêt. Je cours un peu, je fais mes emails en marchant, etc. Et pendant vraiment de 9h à midi, je bosse comme ça. Et je pense que j'ai fait 80% des matinées, sauf quand il a plu. Il a fait plutôt beau, comme ça. Et pour le coup, j'avais jamais bossé comme ça. C'est génial.
Oui.
Je suis hyper concentré dans les calls parce que je marche dans la nature. Ça m'aère l'esprit. Et donc j'ai expérimenté une nouvelle façon de travailler. Je pense que c'est ça aussi ce qui est intéressant dans cette période.
Tu fais pas la promo de morning coworking en disant tout ça, mais
non. Mais en revanche, ça me manque, tu vois. Ça me manque beaucoup d'aller au bureau.
Je suis d'accord. Dans d'autres questions qu'on peut avoir sur les coûts de fonctionnement, notamment, quel impact a le Covid dans tes coûts de fonctionnement? Demande Alexandre Bureau.
Alors Alexandre Bureau, il a un joli nom. Évidemment, c'est son vrai nom. qu'est-ce que je veux dire? Le business model du coworking, il est assez simple. Les coûts, la moitié, c'est le loyer. Donc on a évidemment, on est en discussion avec tous nos propriétaires sur les loyers pendant le Covid, et donc de l'autre côté, on fait aussi le maximum de gestes. On transfère tous les gestes de nos propriétaires vers nos clients, notamment les plus fragiles, les TPE-PME. Ça, c'est un engagement que j'ai pris. Après, les coûts de fonctionnement, c'est le ménage, l'électricité et l'Internet, et puis surtout les people, l'accueil, les gens qui gèrent. Donc voilà. C'est assez simple.
Il n'y a pas eu de réaménagement ou de ménage supplémentaire, autre chose qu'on fait exploser tes coûts?
Alors, pour accueillir lundi les clients, on a eu beaucoup de coûts qu'on n'avait pas prévus. Alors, ça a été compensé par une baisse des coûts pendant le Covid.
Perdu.
Parce qu'on a.
Clément, qui va revenir normalement dans un instant.
Allô, allô, vous m'entendez?
Ah oui, ça y est, tu es revenu. Tu as eu beaucoup de coûts, tu disais, pour faire revenir tout le monde, ouais.
On a fait quelques économies, on va pas se mentir, sur le fait qu'on a moins eu de ménage pendant la période de lockdown. Mais on a dû, on a, alors nous, on a la chance d'avoir un atelier de fabrication avec des ébénistes à la maison. Donc, dans un de nos espaces, on fabrique nos tables de réunion, etc. Et donc, on a fabriqué 600 cale-pieds, tu vois, pour laisser les portes ouvertes. On a fabriqué, je sais pas, 200 portes gel hydroalcoolique qu'on met au mur. Donc, on a eu des coûts comme ça. Voilà, on a commandé 45 000 masques pour notre communauté en groupé. On en offre évidemment à tous nos clients. On en a des rechanges dans tous les espaces. Et on a fait une commande groupée pour parce qu'évidemment, trouver des masques à l'heure actuelle en groupé par un paquet de 100 ou 200, c'est très difficile. Alors que les acheter par 5000, c'est plus simple. Donc, on a eu des coûts, évidemment. Je pense que le Covid, pour nous, c'est une facture à 150, 200 000 euros. Donc, voilà, sur un chiffre d'affaires l'année dernière de 30 millions, pour vous donner une petite idée. Donc, okay. Voilà. Après, ça, c'est juste les coûts. Voilà, la facture globale du Covid, c'est avant tout la réduction d'espace des clients qui arrive là depuis voilà, les préavis et les difficultés économiques de la France qui vont nous impacter. Donc, c'est la crise, quoi. C'est normal. C'est comme tout le monde, quoi.
Tu as prévu, du coup, une baisse de ton chiffre cette année ou une baisse par rapport une baisse par rapport à l'année dernière ou une baisse par rapport aux ambitions?
Alors, une baisse par rapport aux ambitions, c'est certain. On espérait faire 42 à 45 millions d'euros cette année. On espère se maintenir à 30 et 32. Quoi. Donc, on espère ne pas baisser en termes de chiffre d'affaires. Mais oui, on a une baisse estimée de 30% par rapport à notre cible. Voilà. Et aussi qui est dû au fait que on a du coup retardé plein de projets qui devaient ouvrir. Oui. Donc, la croissance de 50% qu'on devait faire, 40-50% qu'on devait faire, on peut pas dans ces conditions la réaliser sereinement. Donc, on a mis en pause et on s'est désengagé, on a mis surtout en pause tous les sujets de croissance. Donc, on devait prendre à bail, il y a un gros espace pour la fin d'année de 15 000 m². Bon, bah, on est en discussion pour repousser, pour voilà, on négocie évidemment. Donc ça c'est une évidence. On va avoir un an de au moins un an de récession. Si on s'en sort avec un an, ça sera déjà bien. Donc, on s'y attend quand même.
Et tu la vois comment justement là je te disais je me marrais parce que moi c'est une inquiétude que j'ai, tu vois, alors là c'est plus sur ton business bureau à partager. D'ailleurs il y a une question qui est arrivée d'Alex Delivet que je vais te poser après, mais si je dois plus prendre mon cas particulier et que j'ai à Paris et que je vais avoir à Bordeaux, c'est-à-dire un certain nombre de postes disponibles, comment toi tu vas, enfin on va faire quoi, on va tous se battre, on va péter nos prix, on va parce qu'à un moment ça va être compliqué. Il y a tu vois, il y a tes confrères américains qui ont une offre aussi et puis qui sont pas au top de leur forme semble-t-il, donc je veux dire
il y a une guerre des prix qui risque d'arriver, c'est sûr. Les six prochains mois bah quand il y a trop d'offres les prix baissent. Donc oui, il y avoir une certaine guerre des prix. Après, c'est pas non plus. Je pense que les espaces bien placés vont vite se remplir. Et ça va, voilà. Et on peut espérer qu'il y ait une hausse de la demande, comme je viens de le dire. C'est-à-dire que comme on est un produit quand même qui est assez contracyclique, les demandes vont se diriger tout de suite vers ce type de produit. Donc, je pense que notre analyse, c'est d'abord effectivement une baisse des prix et puis une remontée plus rapide. Tu vois.
D'accord.
On va faire une sorte de U.
V, de U allongé. De U, oui, d'accord. Okay.
De U allongé. Après, la barre du U, l'angle de la barre de la remontée du U va être difficile, va être la plus intéressante à suivre.
Alex, oui, de l'IV, demandait justement quel impact tu vois sur la partie plus bureau à partager. Donc, pour rappel, Morning Coworking, c'est des bureaux que vous opérez en propre. Et bureau à partager, c'est par exemple ce que moi, je vais mettre
une plateforme. C'est le Airbnb du bureau, quoi.
Exactement. Donc, j'ai, je sais pas, moi, là, je vais avoir 20 postes à partager à Paris dans le 17e. Je les mets sur bureau à partager. Puis, je vais avoir des personnes qui vont me proposer de venir, visiter, etc. etc. Toi, c'est quoi l'impact que tu vois sur cette partie du business? Plus d'offres ou au contraire des boîtes qui ont besoin de récupérer des mètres carrés?
Dans un premier temps, c'est beaucoup plus d'offres. Dans un premier temps, les boîtes vont... Il y a quand même beaucoup de licenciements qui ont déjà eu lieu. Et ça va continuer jusqu'à septembre, si ce n'est plus. Donc, regarde ce qui se passe aux États-Unis, qui est souvent un bon moyen de savoir ce qui nous arrive derrière. Je crois que le chômage était déjà à 15%. Voilà, en France, avec le chômage partiel, on a un petit peu d'amortisseur. Mathématiquement, les boîtes vont licencier, vont avoir de l'espace, et du coup, il y aura de l'offre sur le bureau à partager de boîtes qui sous-louent qui partagent leur espace, comme tu le fais toi. Donc oui, plus d'offres. Et puis après, évidemment, si la demande suit, comme on se le dit, parce que les gens ont besoin de flexibilité dans leur bureau, ils vont pas s'engager sur les 3-6-9 dans le paysage actuel, il y aura une demande qui sera sûrement plus forte vers ces produits-là. Est-ce que ça va compenser? Ça va être dépendant de la taille de la crise. Ça, c'est très difficile à estimer. Mais bon, oui, avec ces bureaux vides, il faut en faire quelque chose. Donc, faut les mettre sur des plateformes comme Bureau à partager pour essayer d'en faire quelque chose et de ne pas laisser vide des bureaux, etc. Ça, c'est une évidence.
Alors, il y a eu des questions sur lesquelles on a plus ou moins répondu au début. Qu'envisagez-vous chez Morning Coworking pour répondre à cette future demande potentielle, aménagement particulier des espaces, mise à disposition d'outils immobiliers spécifiques? Je me pose, alors, en plus de cette question que tu peux garder en tête, est-ce que tu crois aussi à est-ce que ça peut pas changer profondément l'aménagement, c'est-à-dire est-ce que, je sais pas, il y en a plein, alors on lit partout que c'est la fin de l'open space ou en partant très loin, ou est-ce que peut-être que certains ont dit il faut être moins serré, avoir encore plus d'espace, est-ce que la norme va pas changer un peu après tout ça, même s'il y a d'abord une période légale, sanitaire qu'il va falloir respecter une fois, avant de traiter totalement ce virus, mais est-ce que ça peut pas avoir aussi un impact là-dessus sur le long terme, sur un changement de la norme entre guillemets?
Alors, si la norme change, on devra changer.
Quand je dis la norme, c'est norme psychologique ou norme, ouais, norme pour tout le monde, tu vois, pas réglementaire, pardon.
Ouais, moi je crois pas trop. Je crois qu'on est un animal qui oublie très vite, et on va reprendre nos habitudes. Donc je crois il y aura des choses. Je crois plus, par exemple, au fait que de façon très difficile à mesurer, les gens vont avoir un rapport à la pollution qui sera un peu plus... ils vont rejeter encore plus tout ce qui est, côté respiratoire. Les gens vont vouloir être plus sains. Je crois que cette tendance-là peut-être va prendre encore plus d'ampleur. Moi, je crois pas du tout aux effets sanitaires à long terme. Je crois beaucoup plus à ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est les effets des changements profonds du travail, du management qui va en découler. Et on a quelque part l'entreprise traditionnelle, on l'a poussée, quoi. On l'a poussée dans un système différent. On l'a bousculée. Et quand tu bouscules une entreprise, du coup, elle se met en mouvement. Et là, ce qui s'est passé pendant 2 mois, c'est que l'entreprise, tout d'un coup, elle a dû changer sa façon de travailler. Donc c'est un corps, l'organisation, c'est un corps, c'est un corps. Si tu le déplaces, si tu le fais bouger, il commence à rouler. Du coup, il se transforme. Il est dans une dynamique nouvelle. Donc ça, j'y crois beaucoup. Et donc il va y avoir des nouvelles façons de travailler. Ça va avoir des impacts sur les outils, sur les espaces physiques, sur les gens, sur plein de choses. Donc ça, on va le suivre. Je crois pas du tout aux mesures sanitaires qui vont rester. Voilà. Ça, c'est mon sentiment. Après, chez Morning, pour répondre à la question de Thierry, Nous, en termes d'aménagement, on est en train de réfléchir évidemment à renforcer cette idée qu'il faut de plus en plus des espaces faits pour des activités. Je veux me reposer, je vais dans une salle de sieste, je veux me concentrer, je vais dans un espace zen, je veux être brainstormé, je vais dans un espace créatif, etc., etc. Donc, créer un maximum d'espaces qui vont permettre d'accueillir un besoin de travail et une personnalité de travail. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on travaille. Il y a aussi tout un retravail. De plus en plus, on a des boîtes qui viennent nous voir et qui nous disent, bah nous on est 150, on veut créer dans chez Morning notre espace à nous en profitant en même temps des espaces communs. Et donc on veut recréer une bulle dans la bulle. Et donc dans cette bulle, bah on va travailler avec eux sur tout ce qu'ils ont besoin pour travailler. Donc ça c'est évidemment à l'aune de ce qui se passe, il y aura des besoins très différents. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment au contact quotidien des nouveaux besoins et des besoins multiples, parce qu'il y a autant de besoins que de boîtes. Même si ça se recoupe, il y a quand même toutes les boîtes sont différentes. Donc ça, c'est un sujet important et intéressant. Le sujet aussi sur lequel on travaille, c'est évidemment offrir, je parlais du logiciel de gestion de tes mètres carrés, de tes équipes pour pouvoir réserver ta place dans ton bureau. Parce que tu auras moins de postes que de personnes. On est aussi en train de travailler sur un petit calculateur du nombre de postes, de mètres carrés dont tu as besoin selon tes équipes, ce que tu fais. Est-ce que tu as des développeurs, est-ce que tu as des gens créatifs, est-ce que tu as des gens Donc, tu vas pouvoir rentrer en fait des profils et ça va te donner un nombre de postes dont tu as besoin. Donc ça va être ce qu'on appelle le calculateur de postes. On est en train de travailler évidemment sur une offre de télétravail 1 à 2 jours par semaine qu'on n'avait pas aujourd'hui, à tort. On avait l'offre nomade qui était à 300 balles par mois full access qui voilà déjà était une super offre. On va essayer de travailler sur une offre 1 jour par semaine à 100 balles, 2 jours à 180, tout comme ça, ce qui va permettre vraiment d'épouser le besoin. Donc voilà, on travaille sur ce sujet-là aussi bien au niveau outils tech, offre chez nous. On a aussi un partenariat qu'on est en train de monter pour offrir, pour mettre des packs double écran, chaises ergonomiques, clavier, imprimante, tout ce que tu as besoin pour organiser ton petit bureau chez toi, si tu as besoin de rester chez toi pour travailler, et donc avoir des bons prix là-dessus. Donc voilà, on met en place plein de choses qui vont permettre aux gens de, quelque part, épouser ces nouvelles normes, ces nouvelles activités, quoi.
Ok. Intéressant, en effet, moi je note hein, toutes ces accès que tu as à des bureaux bien faits, ergonomiques, ces menuisiers, tu vois, j'étais intéressé par tout à l'heure par tes distributeurs de gel qui doivent être jolis s'ils sont faits en bois, ça m'intéresse, mais en effet tu dois pouvoir donner accès à un certain nombre de choses qui sont sympas. Il y a quelques questions aussi qui viennent sur le rôle, Richard, Mita et Emilie Brossier-Bruno, le rôle du bureau physique par rapport à l'ADN de la boîte, le côté social du bureau, etc. Donc, en effet, c'est quand même un endroit où on réunit de temps en temps tout le monde. Du coup, si jamais on a ces espaces de rotation où tu as 15 postes pour 25 personnes, où tu as, comment je réussis ? Alors, il faut avoir des grosses salles de réunion, il faut proposer d'autres choses. Comment je peux parer à ce...
La culture d'entreprise, elle transpire à plein d'endroits, mais elle transpire beaucoup dans le rapport entre les gens et du coup dans les aussi là où ça se passe dans les bureaux. Donc moi je crois que le bureau a avant tout cette fonction de réunir, de socialiser. On travaille pour gagner notre vie, pour mettre du pain sur la table. On travaille aussi surtout parce que ça nous donne du sens et ça nous socialise. Je pense que là, ce qu'on vit en ce moment nous rappelle à quel point c'est sympa d'aller prendre une bière après le boulot, de bouffer avec les collègues, de se faire des réunions sur des projets. Je pense que ça nous manque, ce contact physique. Je pense qu'on est grégaire.
On sent l'overdose de Zoom chez Clément, hein, quand même.
Ah ouais, non mais j'en peux plus, moi, des conf-calls. c'est vrai que c'est fatigant. Hein. Je trouve que c'est presque plus fatigant d'être en conf-call quand encore une, parce que ta concentration, elle est... déjà, t'as moins l'habitude. Donc c'est plus difficile.
Puis c'est pas naturel.
On a besoin de se toucher, quoi. On est des êtres humains. On est habitués à être en groupe. Donc, enfin, pour la majorité des gens, le fait de se retrouver est un must absolu, est un besoin absolu. Le fait qu'il y ait une flexibilité dans notre accès aux espaces et qu'on puisse rester chez nous, aller ailleurs pour éviter les transports, etc., c'est une évidence, mais il faut qu'on puisse se retrouver. Donc ça va être clé dans le bureau de demain. C'est la partie sociale. Et justement, c'est ce qu'on fait le mieux dans les espaces de coworking. Donc là aussi, je me dis quand même que sur cette fonction de sociabilisation, on n'est pas trop mal.
C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, tu vois, dans notre projet de bureau à Bordeaux. Tu vas me dire si c'est une mauvaise idée ou pas. D'ailleurs, je t'en parlerai peut-être en off, mais c'est une sorte de, pas un manoir peut-être, mais une sorte de belle maison dans un quartier qui s'appelle Codéran, qui est un beau quartier, et dans lequel on voudrait faire une garderie et une piscine voilà des espaces de réception, avoir vraiment un espace de vie beaucoup plus bureau moderne, j'ai envie de dire, qu'un endroit où en fait quand tu te réunis et que tu viens là-bas, t'es bien en fait, quoi, un côté très
En fait, cette hybridation entre le travail, la vie perso, elle est en marche forcée. C'est vrai que demain, on peut imaginer un monde où il y a moins de différences, en fait. Enfin, moi, à titre personnel, je fais pas la différence entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Après, je suis entrepreneur, donc c'est quelque part une fonction qui s'y prête bien, parce que voilà, je sépare pas. J'ai qu'une seule vie, quoi. Donc, de temps en temps, je prends ma matinée parce que j'ai envie d'aller faire du sport sans bosser. De temps en temps, je fais les deux, je bosse et je fais du sport en même temps. Et en fait, je m'équilibre personnellement comme je l'entends. Quand je travaille trop, j'arrête.
Ouais. Voilà. Ce que tu dis, c'est qu'on est en train de faire en fait des espaces de maison au bureau et des espaces de bureau à la maison, en fait, en
bien
parallèle.
Sûr, ouais.
C'est un peu ça. Ouais.
Ouais. Et après, le vrai travail, en fait, c'est sûr. Je pense que le vrai travail intelligent qui va avoir lieu, c'est d'accompagner les gens à épouser cette nouvelle forme et pas être contre et savoir couper quand il faut couper. Voilà. Donc ça, c'est toute la difficulté, parce que dès que tu pars dans ce sujet-là, on va dire, bon, en fait, les gens ne savent plus s'arrêter, ils bossent tout le temps, et puis on leur met la pression pour qu'ils bossent tout le temps. Voilà, la difficulté, c'est d'arriver à trouver cet équilibre et que, entre guillemets, le management dans les entreprises joue le jeu, quoi. Donc voilà, donc c'est aussi l'entreprise raisonnable qui est intéressante derrière ce sujet, quoi. C'est comment tu fais en sorte que tes employés les employés, même les associés, parce que moi, dans la boîte il y a quasiment que des associés, trouvent le bon équilibre. Et un gars qui bosse 5 heures sera peut-être plus efficace qu'un gars qui bosse 9 heures. Donc la valeur, elle est pas forcément que dans le temps. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc c'est l'outil de travail à distance, les systèmes de gestion de projet comme Asana te permettent de voir en fait que la valeur des gens elle est dans les projets, dans ce qu'ils amènent et dans la production, elle est pas forcément que dans le temps de présence au bureau. Donc ça aussi, ça permet de rééquilibrer potentiellement aussi entre des profils qui étaient moins forts, qui moins présents pour plein de raisons, ou moins bons à l'oral, ils vont potentiellement être meilleurs dans la gestion de projet à distance. Donc ça va être très très intéressant à suivre aussi. Quelles sont les personnalités et les profils qui, dans un monde plus, on va dire, asynchrone, vont être meilleurs ou moins bonnes?
C'est vrai que ça, moi, je le vois très clairement dans mes équipes. Alors après, ils ont toujours été aussi pour moi à distance, puisqu'on a déjà plusieurs bureaux, mais dans des populations de dev, de créa, de personnes qui sont sur de la croissance, des growth hackers, ou des gens qui font du référencement naturel, ou des AdWords, ou des choses comme ça, qui font des campagnes très minutieuses avec beaucoup de techniques de réflexion, etc., finalement, qui sont très très bons à Fortnite, d'une part, et aussi à sur ce genre de tâches, parce que justement, c'est exactement, ils sont complètement câblés comme ça, en fait, plus que dans des relations sociales de proximité permanente, quoi, dans lesquelles certains ne sont pas toujours à l'aise. Et ça rejoint un peu toutes ces questions, hein, une des dernières qu'on a là, et puis après je vais te laisser tranquille prochainement, mais Mathieu Folléas qui dit justement développer des petits espaces de travail au sein des copropriétés ou en pied d'immeuble, est-ce que c'est un sujet ? Et en effet, on reste toujours dans ce rapprochement vie perso, vie pro finalement, au moins géographique déjà, ouais. Mais c'est intéressant.
Moi j'y crois, j'y crois beaucoup. J'ai beaucoup regardé ce sujet, d'ailleurs on le regarde encore aujourd'hui. Le problème de tout ce qu'on se dit, c'est que c'est bien beau de vouloir aller bosser dans des espaces de coworking au lieu de rester chez soi pour faire du télétravail, mais aujourd'hui c'est pas possible. Le maillage territorial, il n'y a pas assez d'espace pour offrir ça à bah, tu prends les gens qui sont en Île-de-France, tu prends toutes les communes de plus de 25-50 000 habitants qui sont autour de Paris, il faudrait que dans chacune d'entre elles, il y ait quelques espaces à minima pour accueillir des personnes pour que ces gens-là ne fassent pas le pendulaire tous les jours. Donc, c'est pas le cas aujourd'hui parce que le business model n'existe pas. Tu prends un pied d'immeuble et tu l'équipes et puis tu fais un espace de coworking. Même s'il n'y a personne qui le gère et qui l'a autogéré, c'est très compliqué d'équilibrer. Donc, il y a un sujet de business model.
Oui.
Maintenant, là, on est en train de vivre une période exceptionnelle. Il y a peut-être potentiellement une demande nouvelle qui arrive. Donc, il y a sûrement des opportunités à aller chercher. Faire le mini-espace de coworking de quartier un peu autogéré, potentiellement, c'est une bonne idée. Je pense qu'il y a il y a des modèles qui vont émerger. C'est sûr.
Je trouve ça hyper intéressant et c'est ce que disait hein, Fabrice Grinda dans le premier live ou le deuxième que j'ai fait sur LinkedIn, hein, qui disait qu'en gros c'est un des moments et dans ces périodes de crise qu'on voit beaucoup de nouvelles choses et que c'est un bon moment pour entreprendre et se lancer dans des projets. Mmh. Si je reviens rapidement avant de te laisser sur Morning et sur Bureau à partager, ta relation, toi, un peu plus d'un an. Après l'investissement de Nexity, tu disais en entrée d'échange là tout à l'heure que du coup vous étiez beaucoup vu, etc., etc. C'est quoi la relation du coup? Ça se crée quoi? Ça resserre les liens? Ça fight un peu? Enfin, tu vas peut-être pas me dire que vous torpillez la gueule tout le temps, mais je veux dire.
Non, mais globalement pour nous c'est hyper rassurant d'avoir un groupe comme Nexity qui est derrière nous et le message qu'ils nous donnent c'est on sera là pour vous aider donc ça crée une certaine sérénité et ça permet d'affronter la vague avec en étant arrimé quand même à un gros tanker qui va pas chavirer donc on fait comme si on était indépendant. D'ailleurs on gère la boîte de façon très indépendante, mais on joue le jeu du groupe et justement on profite de cet arrimage qui nous sécurise. Ça nous empêche pas de faire hyper attention aux coûts et d'être hyper vigilant sur nos engagements, et au contraire on fait presque encore plus gaffe. Mais ça permet d'avoir une certaine sérénité, de conserver l'emploi. Je pense que sans Nexity, par exemple, j'aurais été sûrement plus enclin à imaginer le fait de devoir faire un plan social, par exemple, tu vois, parce que j'aurais beaucoup plus flippé. Je m'envisage moins, évidemment, voire pas du tout, parce que faut pas aller taper dans le muscle souvent sinon tu rebondis pas quand t'es une entreprise. Donc ça amène de la sérénité. Pour nous, ça nous amène de la solidité aussi dans le marché, et ça nous permet de rebondir plus fort. Donc ça, c'est l'objectif. Faut pas oublier que dans les crises, c'est là où naissent les boîtes qui sont leaders demain. C'est celles qui traversent le mieux la crise et qui rebondissent le mieux, qui en général prennent le leadership sur des marchés. Donc, évidemment, c'est notre objectif. C'est de rebondir le plus fort, d'offrir la meilleure offre sur le marché et puis d'être un bel acteur demain de ce marché de l'immobilier dans quelques années, avec la crise dans le rétroviseur.
Bon, et une question perso, presque perso, professionnelle, à un autre professionnel. Moi, j'étais en train de regarder, mais littéralement, hein, le jeudi avant le confinement, je visitais un bureau tout près dans le 17e. Je me disais, je vais acheter un autre truc. On est d'accord, j'y vais pas, j'attends un peu, non?
Écoute, moi, j'étais sur la même config que toi. J'étais en train d'acheter avec un copain un bureau avec la banque et tout. Enfin, rien. C'était pas loin et on est en train de renégocier, mais voilà, si c'est à Paris, bah c'est dans le 7e aussi, moi, tu vois, donc je pense que tu peux renégocier à minima renégocier 10%. Voilà. Après, ça dépend de tes finances et de ton, voilà, mais je pense que oui, enfin, c'est résilient à Paris, donc je pense pas qu'on va, on va, ça va pas être une crise, on va pas perdre 50% de valeur à Paris. Je crois pas du tout.
Ok.
Mais bon.
C'est chiant parce que tu remets ça sur.
Je suis pas du tout
le haut de la pile.
Après, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas des investissements qui valent plus le coup? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une crise comme celle qu'on vit, souvent, comme dans toutes les crises, le cash, cash is king. Donc quand tu as du cash, il faut l'allouer là où il y a le plus d'intérêt pour toi. Donc, il y a peut-être des zones d'investissement qui sont plus intéressantes que les 5% de rentabilité potentielle que vont te rapporter le bureau.
Oui.
C'est peut-être plus ça la question.
J'ai l'impression que tu as une idée derrière la tête. Mais
Je pense que par exemple, il y a des fonds de. Aujourd'hui, il y a beaucoup de besoins pour les entreprises ont besoin de cash. Donc, je pense qu'il y a des fonds d'obligations pour aider les entreprises à passer cette crise qui vont être intéressants. Peut-être plus, ça rapportera peut-être plus que d'immobilier à court terme, court moyen.
Il va falloir que je refasse un épisode avec Olivier Gouin.
T'as les contacts qui vont bien, je pense que tu vas trouver. Mais donc voilà, après, c'est plus une question d'allocation de tes ressources par rapport au moment.
Ok. Et alors, toute dernière question subsidiaire pour toi cette fois, quand est-ce que tu reviens chez Morning Coworking, quoi, tu sais?
Mais écoute, j'ai failli y aller hier, et puis on m'a conseillé de pas y aller pour justement donner l'exemple de rester en télétravail, parce qu'il y a quand même une grosse partie de nos équipes qui sont sur place, qui ont beaucoup bossé pour organiser les bureaux ce week-end aussi. Finalement, je me suis dit que voilà. J'allais pas y aller pour. C'est compliqué parce que t'as aussi envie de montrer l'exemple pour être sur place et en même temps faut montrer l'exemple pour faire du télétravail. Donc, je savais pas quoi faire, j'étais coincé.
C'est la première fois que j'en parle avec.
Tu restes ici.
Oui, mais ça, donc, voilà. c'est facile. Non, c'est la première fois que j'en parle. J'avoue qu'il y a un peu un côté physique du capitaine qui quitte le navire quand t'es pas là et que t'as envie d'y être. Et à la fois, en effet, moi, je rabâche à nos équipes le fait de dire revenez pas avant fin juin. De toute façon, on bosse bien comme ça. De toute façon, il y a trop d'incertitudes. Donc finalement, je me suis dit le navire, il est dématérialisé, donc il n'y a pas besoin de retourner sur un navire physique tout de suite, quoi. Écoute.
Je me dis que pour l'instant, ça sert pas à grand chose. Je suis de près ce qui se passe. Mais oui, bon, bah, finalement, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand monde. Comme je te l'ai dit, il y a à peine 10% des gens qui sont revenus. Donc, ça se gère très bien. Finalement, ils ont le temps de passer, quelques minutes avec chaque personne qui arrive dans nos espaces pour leur expliquer les consignes, leur donner un masque s'ils en ont pas, le kit de déconfinement. Alors on les prend en main pour que tout le monde se sente sécurisé. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment pas besoin d'être sur place. J'ai plutôt intérêt à pas perdre de temps justement parce que je suis à une heure de Paris à faire un aller-retour. Ça manque, pour le coup, ça manque. Donc, j'avais plus envie d'y aller pour ça que pour l'intérêt de me retrouver. En plus, j'ai 25 espaces, donc j'allais pas faire la tournée des espaces non plus, quoi. donc, voilà.
C'était pas très, prudent. Super, écoute, je te demanderai le lien dès que tu l'auras de cet outil dont tu as parlé tout à l'heure, que vous allez partager. Je le mettrai dans ma newsletter dimanche prochain pour ceux qui s'inscrivent. C'est GDY, je crois c'est, que c'est marqué.
Il ne sera pas prêt tout de suite, mais dans 10-15 jours, je pense.
D'accord. Tiens, voilà, c'est écrit en bas la newsletter. Dès que ce sera prêt, tu me le partageras, puis je l'enverrai à tout le monde. Je te remercie pour tout ça. On a répondu plus ou moins à toutes les questions. J'ai plein de réponses. Donc voilà, me voici rassuré aussi. Peut-être sur mes bureaux, il faudra que je m'arrache. Je baisse mes prix pour te battre sur ta propre plateforme. C'est moche. Je pense que je me bats avec tes armes. C'est dur.
T'as vu, hein. C'est la schizophrénie, ça. C'est magnifique.
Merci mille fois, Clément, pour ton temps. À plus. Ciao.
Ciao.
À plus, tout le monde. Merci. Hein, et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. N'oubliez pas de suivre tout ce qui se passe chez Bureau à partager, Morning Coworking un peu partout. De suivre Clément sur LinkedIn aussi. Un petit clin d'œil à mes sponsors, je le disais, mais qui m'ont pas lâché aussi, nos sponsors et nos partenaires chez Cosa Vostra aussi, qui nous ont pas lâché pendant ce confinement qui vient de se terminer. J'y suis très sensible aussi. On a bien bossé. Vous nous avez fait bien bosser. Tout le monde est là et c'est top. Donc voilà. Merci pour ce live. Ciao Clément. Salut à tous. Et à bientôt.
Bonne soirée.
Do it yourself. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous pensez qu'il pourrait intéresser un de vos proches, je compte sur vous pour lui partager. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Génération Do It Yourself sur gdiy.fr et d'aller regarder ce que font mes sponsors qui me font l'honneur de m'accompagner en temps de crise. Allez, on continue à se battre.